public, privé, solidarité, c'est tous ensemble qu'il faut lutter.
Alors donc aujourd'hui nous allons parler de la recherche, puisque nous avions eu l'occasion lors du déclenchement de ce mouvement de recevoir quelques acteurs de cette mobilisation qui était en cours. On avait réalisé une émission ensemble, alors on tenait à revenir et à faire le bilan quelques mois après de ce qu'a pu être ce mouvement, essayer de comprendre d'une ce qu'a été ce mouvement et puis vers quoi il a débouché, ce qu'il a permis d'élaborer. Donc on se retrouve avec trois chercheurs. Monique Regard qui est à ma droite, ce qui est pas très radiophonique comme information, qui est ingénieure de recherche au CNRS et qui est biologiste. Sophie Pochic, si vous voulez savoir, elle est en face de moi, qui est chercheuse au CNRS et sociologue de l'emploi. Et puis Santiago Pita qui lui est physicien et chercheur au CNRS également. Donc il faudra faire attention, il faudra vous accrocher parce que le tout cumulé doit bien y avoir 50 années d'études après le bac autour de la table. Donc on va revenir un petit peu avec vous sur la genèse de ce mouvement, d'où part ce mouvement des chercheurs que moi j'avais jamais. C'était étonnant comme mouvement.
Oui. Ça a commencé, ça fait déjà maintenant. Ça a fait à peu près un an et demi, et qu'il y avait une... En gros, depuis que la droite est au pouvoir, hein, faut pas se cacher derrière son petit doigt, et les crédits de recherche avaient quand même assez considérablement baissé. Et un certain nombre de gens disaient « ça peut plus durer », mais c'est vrai que dans les laboratoires, c'est pas toujours évident d'arriver à faire partir un mouvement. Et puis, vers décembre 2003... Ça a commencé à l'INSERM. Donc l'INSERM, c'est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale. Et au moment des phases de recrutement de personnel, subitement, il a été annoncé que les crédits allaient être considérablement baissés dans les unités de recherche médicale. Donc ça a fait quand même pas mal d'effets. Le président de la commission scientifique qui a eu cette information a fait savoir qu'il n'était pas content, a essayé d'avertir ses collègues et s'est aperçu que ce n'était pas seulement dans ce domaine scientifique qu'il y avait des problèmes, mais aussi dans d'autres commissions de l'INSERM. Et donc, un certain nombre de directeurs de laboratoire se sont émus de la situation et ça a commencé, il y a eu des discussions donc dans les laboratoires. À ce moment-là, le CNRS en tant que tel n'était pas encore touché. Les crédits avaient été quand même pas très très bons. Les recrutements, enfin l'argent qui était consacré au recrutement n'était pas non plus excellent. Mais il y avait pas mal de gens du CNRS qui disaient « Oh, nous, ça va, on a relativement peu de problèmes ». Avec juste un petit rappel, pendant longtemps, des gens ont eu la sensation dans les laboratoires que les gens de l'INSERM étaient entre guillemets plus riches et mieux dotés que les gens du CNRS. Bon, ça peut être a fortiori de l'université. Ça peut être que des impressions, mais parfois, dans certains domaines, c'était effectivement vrai. Et puis, donc en décembre 2003, il y a eu Alain Trottmann, dont vous vous souvenez sûrement, dont vous avez entendu parler, qui a dit « ça peut plus durer, il faut absolument faire quelque chose ». Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à écrire un texte qui a petit à petit été repris. Et en janvier donc de 2004, ils ont commencé à vouloir faire une pétition. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que Trottmann a redit aux États généraux de Grenoble que lui, cette pétition, au tout début, il n'y croyait pas vraiment, en disant « si jamais il y a trois Pékins qui la signent, on va vraiment avoir l'air ridicule ». Et on peut dire il ne le sentait pas vraiment. Puis il y en a d'autres qui lui ont dit « si, il faut, parce que c'est pas possible, ça peut plus continuer comme ça ». Donc, il a fait cette pétition et c'est vrai que l'informatique, enfin disons les réseaux, ont joué un grand rôle, puisque la connaissance de cette pétition, elle s'est faite beaucoup, beaucoup par Internet. Et elle a eu un succès dont on peut dire qu'il était fulgurant, parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont signée. Et très vite, elle a eu un très, très grand succès.
En deux mots, elle disait quoi, cette pétition?
Alors,
attends, on va te mettre un micro.
Cette pétition, en fait, qui a été lancée le 7 janvier, elle s'appelait « Sauvons la recherche ». C'était une lettre ouverte au gouvernement et elle dénonçait, en fait, à la fois la diminution des crédits, l'annulation de crédits, donc des crédits qui avaient été programmés, puis finalement qui n'étaient pas distribués au laboratoire, qui asphyxiait le système de recherche, et surtout la réduction des recrutements pour les jeunes chercheurs et la transformation de postes permanents en CDD de 3 ans. Et ça, c'était notamment une des grandes dénonciations de la pétition. Et dans la pétition, ce qui était intéressant, c'est que les chercheurs disaient « on peut agir collectivement contre ». Et ce qu'ils disaient exactement, c'était « la destruction programmée de la recherche française ». Et cette pétition avançait 3 revendications principales, que les sommes qui étaient dues soient versées, tout simplement. Ce n'est pas une revendication extrêmement...
Pas un truc de gauchiste, ça.
Non. Vous nous devez de l'argent. On veut qu'il soit versé. Que les embauches pour les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses soient très significativement augmentées. Et surtout, que s'ouvrent des assises nationales de la recherche pour qu'on mette en place une politique, alors ça va faire un peu gros mot, mais une politique pluriannuelle d'emploi. Donc l'idée de vraiment penser sur la longue durée, comment intégrer les jeunes chercheurs, leur offrir des perspectives d'embauche et des carrières, et lutter contre la précarisation généralisée pour les chercheurs et pour les ingénieurs de recherche. Et voilà, c'était les 3 principales revendications. Et progressivement, cette pétition reçoit d'abord des signatures de directeurs démissionnaires. Parce qu'à la fin de la pétition, ils disaient « Et si ça continue, on va mettre en jeu notre poste. On démissionnera collectivement de notre poste de directeur de recherche. » Les directeurs de recherche progressivement signent de plus en plus. Ensuite, les chercheurs, ingénieurs de recherche, et la pétition progressivement s'ouvre aux non-chercheurs. Et grâce aux moyens du mail et des différents sites internet qui vont être créés, la pétition, elle atteindra à la fin, alors je ne sais pas actuellement à combien on en est, mais je crois qu'on est à plus de 120 000 signataires.
Alors, cette pétition, elle a été mise en ligne le 7 janvier 2004. En fait, quelques jours après, il y avait déjà plusieurs milliers de signataires. Quelques semaines après, il y avait plusieurs dizaines de milliers. En tout, c'est plus de 70 000 à peu près personnels de la recherche qui l'ont signé. Plus de 150 000 personnes, si on compte les personnels de la recherche, plus les citoyens qui ne sont pas dans la recherche. Mais il y a plus que ça, en fait, parce que pendant toute la période entre le mois de janvier et le printemps, nous sommes descendus dans la rue, tous les jours quasiment, par petits groupes de 4-5, pour faire signer la pétition aux gens qu'on rencontrait dans la rue en expliquant quel était le problème. Et si on compte le tout, on est près de 300 000, on est à près de 300 000 signatures. Alors on peut se demander pourquoi ce mouvement a pris une telle ampleur. Qu'est-ce qui est la recette de l'efficacité finalement? Et je crois qu'on le doit beaucoup à M. Chirac. Parce qu'à la fin de l'année 2003, Chirac n'arrêtait pas de dire « La recherche en France, c'est une priorité nationale ». Il n'arrêtait pas de dire ça, alors que les budgets de fonctionnement des laboratoires baissaient 30% chaque année. Donc c'était plus qu'exaspérant. Et ça explique vraiment le succès du mouvement.
Oui, on a l'année des handicapés aussi. Ça fait écho, puisque Chirac a fait la même promesse aux handicapés. Aujourd'hui, les handicapés manifestaient en disant « mais on n'a rien ». On va revenir sur ce mouvement. Donc, il y a manifestation. Comment réagit le gouvernement à cette menace de démission? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où là, vraiment, s'enclenche un mouvement qu'on n'attendait pas, évidemment? Enfin, c'est pas un milieu qui prête trop le flanc à ce type d'action.
Oui, c'est vrai que pour faire descendre les chercheurs et les enseignants-chercheurs, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les enseignants-chercheurs, c'est vrai que ce n'est pas absolument évident de les faire descendre dans la rue. Ce n'est pas des gens qui descendent forcément très, très, très facilement. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être mobilisables, la preuve. Et petit à petit, vraiment le mouvement a pris de l'ampleur. Comme disait Santiago, pratiquement toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, il y avait des manifestations, qui à la Sorbonne, qui à l'Odéon, Bon, et petit à petit, les choses se sont mises en place. Mais en tous les cas, à chaque fois, il n'y avait aucun écho du côté officiel, à savoir que on a quand même eu manifestement l'impression de ne pas être prise au sérieux. À chaque fois, en tous les cas, pas de réaction particulière de la part de notre ministre. À l'époque, c'était Madame Claudie Agnoret, qui passait son temps à longueur de journaux télévisés à expliquer que oui, on avait raison dans ce qu'on disait, mais que tout allait bien. En gros, c'était un petit peu ça. Donc c'est vrai que ça avait un côté extrêmement exaspérant, et je pense que bon, ça a beaucoup favorisé la mobilisation, parce qu'en gros, on avait quand même l'impression qu'on nous prenait pour des imbéciles, quoi. Restez dans vos éprouvettes, occupez-vous de science, mais surtout, n'ayez pas d'idées sur les budgets, ça vous concerne pas, quoi. C'était ça.
Alors, une des particularités, je vais peut-être un peu revenir en arrière de ce mouvement, c'est, enfin, une des particularités, il a émergé chez les biologistes, chez les physiciens. Il y a deux représentants autour de cette table. Pourquoi c'est chez vous que ça a explosé en premier, et comment
Disons que ça a vraiment commencé chez les biologistes. Nous, au CNRS, contrairement à ce qu'a dit Monique tout à l'heure, on n'était pas, on disait pas tout va bien. On voyait bien les crédits de fonctionnement des laboratoires baisser. On avait des grosses difficultés. Il se trouve que nos directeurs de laboratoire, dans la plupart des cas, avaient fait des petites économies qui permettaient de moins sentir les sommes qui n'étaient pas versées par le gouvernement. Mais ça n'allait pas bien. C'est vrai que les biologistes ont déclenché le mouvement. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi les biologistes plus qu'un autre. Peut-être que Monique a une explication à ça.
Parce qu'ils savent faire les cocktails Molotov. Il y a une explication comme celle-là ou pas ?
C'est plutôt les chimistes qui savent faire ça.
Je ne suis pas sûr. Mais c'est sûr qu'on était prêts à rejoindre quiconque organiserait quelque chose. Et il n'a pas fallu grand-chose pour que tout le monde se retrouve dans la rue.
Ben, pourquoi les biologistes? Comme je disais tout à l'heure, le mouvement est parti du manque de postes à l'INSERM, donc qui est l'Institut de la Recherche Médicale. Donc qui dit médical dit forcément biologiste, parce que quelque part c'est quand même très très fortement relié. Et c'est d'autant plus étonnant puisque le monde médical, qu'il me pardonne, n'est pas très revendicatif habituellement. Il est plutôt conservateur, on peut dire ça comme ça. Donc c'était d'autant plus surprenant. Et ceux qui se sont en premier mobilisés, c'était des patrons de labo, c'est-à-dire des patrons de médecine, ce qui est quand même pas courant. J'ai quelques souvenirs de 68 où les patrons de médecine étaient pas ceux qui étaient dans la rue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'était assez surprenant, et ils avaient vraiment décidé de monter au créneau. Donc je pense que c'est ça la raison pour laquelle, parce que ça a commencé à l'INSERM. Et donc ensuite, tous les autres biologistes, parce qu'il y a des interpénétrations dans les milieux de biologistes, aussi bien ceux qui sont du milieu médical que ceux qui sont du milieu plus fondamental, qui se connaissent. Bon, il y a de plus en plus de gens. Puis il y a aussi un aspect de l'évolution de la biologie en ce moment, enfin en ce moment, disons dans les 15 dernières années, où une partie de la biologie s'est beaucoup plus orientée vers la biologie moléculaire, qui sont des techniques qui valent de plus en plus cher. Donc c'est vrai qu'avant, on pouvait faire de la biologie, je ne vais pas dire dans une cuisine tranquillement, il ne faut pas exagérer, mais les besoins en finance étaient beaucoup moins importants que maintenant. Maintenant, pour tout ce qui est... vous avez tous entendu parler, j'imagine, du déchiffrement du génome. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça, c'est des manips qui coûtent très cher. C'est vrai que maintenant, dans un labo de biologie, on ne peut pas travailler, ou très peu, sauf vraiment dans des domaines un petit peu particuliers. Il n'y a pas de laboratoire de biologie, ou très peu, dans lesquels on ne fasse pas de biologie moléculaire. Si bien que maintenant, ce qu'on appelle les crédits de fonctionnement d'un laboratoire sont beaucoup plus importants qu'il y a 20 ans. Donc je crois que ça aussi, ça a beaucoup participé, dans la mesure où la concurrence internationale étant ce qu'elle est, un certain nombre de labos se sont dit si on nous coupe les finances, non seulement, ou si on les diminue, ça va faire qu'on ne va plus pouvoir travailler.
Sophie.
Oui, puis un regard un peu décalé, puisque moi je suis représentante des sciences humaines et sociales, donc finalement des sciences qui étaient habituées à vivre dans la précarité et la pauvreté depuis pas mal d'années. À mon avis, on peut aussi dire que, pour une fois, les privilégiés étaient touchés, dans le sens où la biologie, pour l'instant, était considérée comme une discipline reine, sur laquelle il fallait mettre toute l'impulsion des crédits, c'était une priorité nationale. Et donc, pour une fois, les biologistes étaient touchés par les diminutions de crédits. Ils tombaient pas de leur piédestal, quand même, mais là, ils se sentaient pas traités à la manière dont ils auraient aimé qu'on les traite par le gouvernement. Et à mon avis, ça a joué. Et il y a peut-être aussi le contexte de travail de la biologie, puisque ça coûte très cher. Il y a une très forte division du travail. Donc il y a un patron de labo, après des chefs d'équipe, après des post-docs qui font les petites mains, les doctorants, les DEA.
Et le personnel technique.
Et le personnel technique. Et donc là, les patrons de labo voyaient bien que tous ceux qu'ils avaient formés, soit ils partaient à l'étranger, soit ils n'avaient plus à les intégrer sur des postes stables. Et c'était une réalité, les freins au recrutement et la précarité de l'emploi, c'était une réalité très visible pour les patrons de labo. Peut-être que dans nos disciplines, que ce soit en histoire, en sociologie, il n'y a pas la même division du travail. Et donc le fait que les doctorants ne soient pas financés, qu'ils ne trouvent pas de boulot après, finalement, les personnels statutaires en sont peut-être un peu moins conscients parce que les doctorants passent.
Au début 2003, vous vous souvenez très bien que le gouvernement a pris une série de mesures concernant des restrictions budgétaires qui ont été aggravées à la fin de l'année par des mesures qui ont désespéré les jeunes et qui ont donc déclenché la fronde des chercheurs. Je pense que les décisions en matière de recherche en 2003 tenaient à 5 éléments. Premièrement, ces mesures s'inscrivaient dans une démarche plus générale de réduction à tout prix des dépenses de l'État, quelle que soit la casse que cela pouvait provoquer, tant que cette casse était politiquement gérable. Deuxièmement, le secteur de la recherche était précisément un secteur où la casse devait être politiquement gérable, si on prend en compte que ce secteur est numériquement faible, peu organisé, incapable de bloquer le fonctionnement de la société ou d'entraîner des gênes pour les usagers. Troisièmement, se manifeste à cette occasion une incompréhension dramatique par certains dirigeants du mode de fonctionnement de la recherche. Ce type d'incompréhension apparaissait de façon répétée dans les propos comme ceux du précédent ministre des Finances, déclarant par exemple « Il faut améliorer le rendement de la recherche publique pour qu'elle soit plus en adéquation avec les besoins du marché ». Quatrièmement, cette ignorance s'adosse à la conviction pour certains dirigeants que le marché permet de réguler n'importe quel phénomène. Pour eux, le marché, régulateur suprême, est opposé au service public considéré uniquement en termes de coûts et pas de services rendus, voire d'investissements indispensables au fonctionnement harmonieux de la société. Ceux-là sont favorables à une privatisation sans cesse croissante des services publics, à une extension des secteurs qui doivent entrer dans le cadre de l'AGCS. Pour eux, l'éducation, la santé, la recherche doivent pouvoir être privatisées. Cinquièmement, un aspect particulier de cette idéologie du marché comme régulateur universel réside dans l'affirmation que le système de recherche, pour être réactif, doit pouvoir littéralement faire son marché dans un vivier de jeunes chercheurs précaires, l'idée étant de tous les faire travailler beaucoup avant de ne garder que les plus performants. Les élateurs de cette conception ne se préoccupent pas de l'évidence pourtant criante que ce système ne peut tout simplement pas marcher si les jeunes en question refusent ce mode de fonctionnement et se détournent de la recherche.
Voilà, c'était donc un extrait de Alain Trautmann, un des animateurs de la pétition Sauvons la recherche, qui a donné le mouvement sur lequel on s'interroge un petit peu aujourd'hui. Ce discours était prononcé à l'occasion de la clôture des États généraux de la recherche. Alors justement, on va en venir à l'évolution de ce mouvement. Il y a cette pétition, les labos se mettent en réseau, communiquent entre eux, et puis il y a un certain nombre d'avancées ou de reculs du gouvernement. Si je me trompe pas, ils promettent de donner l'argent qu'ils avaient déjà promis de donner, mais qu'ils avaient bloqué. Ils promettent de débloquer un crédit de 3 milliards de francs. Alors je crois que ça intégrait l'argent qu'ils avaient déjà promis et qu'ils avaient bloqué pendant ce temps-là, qu'ils n'avaient pas donné. Donc c'était un peu on vous donne 3 milliards dont une grande partie on vous les doit, et puis était mis comme proposition le fait d'organiser ces états généraux de la recherche. Santiago, est-ce que comment ça se fait, c'était une de vos revendications, ces états généraux, ou est-ce que c'était un os à ronger que vous donne le gouvernement?
Non, c'était clairement l'une de nos revendications, puisque c'était l'un des 3 points qui était inscrit dans la pétition. On ne voulait pas simplement faire des revendications, on voulait se transformer en force de proposition. Il se trouve que, je pense que dans un premier temps, le gouvernement ne nous a pas pris au sérieux, mais vers la mi-février, ils ont commencé un petit peu à avoir peur. Et la preuve, c'est qu'à la mi-février, Claudie Aigneret a annoncé l'organisation par le gouvernement d'Assises nationales de la recherche, c'est-à-dire qu'ils essayaient de casser notre mouvement en divisant la communauté scientifique en deux assises différentes. Donc, on a évité cet écueil grâce à Éguine-Émile Beaulieu et Édouard Brézin, qui sont donc président et vice-président de l'Académie des sciences, qui ont proposé de fédérer les deux mouvements pour ne faire qu'un seul état généraux de la recherche, on va dire, sous leur égide. Donc, s'est formé ce qu'on a appelé le CIP, le Comité d'initiative et de proposition, qui a été créé par cooptation. De façon plus ou moins représentative, on va dire, et qui a permis de donner une structure à ce qui a été ensuite l'organisation des états généraux.
Alors, l'enjeu, est-ce qu'on peut préciser un petit peu, parce que l'enjeu de ces états généraux, c'était quoi? C'est de réfléchir sur l'avenir de la recherche, sur l'avenir du financement de la recherche, qu'est-ce qui était au cœur de...
L'enjeu, c'était de faire un bilan de ce qu'était la recherche aujourd'hui en France et comment elle devait évoluer pour atteindre les objectifs qu'elle devait se fixer, notamment par rapport à comment elle se développe dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on considérait que la recherche en France n'allait pas du tout. Comment faire pour la réformer? On n'allait pas laisser un gouvernement, surtout un gouvernement de droite, le faire à notre place. On a voulu donner l'image qu'on s'en faisait, nous. Parce qu'il faut savoir que pendant tous les mois qui ont précédé, il y a tout un tas de rapports qui sont sortis, sur le CNRS notamment, pour dire à quel point le CNRS était un mauvais organisme. Et c'est un petit peu, on dit que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Là, c'était caricatural, c'était assez incroyable, c'était très insultant. Donc, on a pris les devants, on a organisé ces assises nationales de la recherche, qu'on appelle l'État généraux, et on a fait nos propres propositions.
Alors, justement, venons-en à ces états généraux, c'est un petit peu le cœur de l'affaire. Ils ont eu lieu il y a quelques semaines.
Les états généraux, on ne peut pas dire qu'ils ont eu lieu il y a quelques semaines. Ils ont commencé fin mars et ils se sont clos fin octobre. Donc ça veut dire que les états généraux ont duré 6 mois et l'idée, c'était vraiment de faire des états généraux dans tout le système de recherche public, voire même privé en France. Donc, il a fallu imaginer une organisation pour que tous les acteurs du système de la recherche, doctorants, post-docs, ingénieurs, directeurs de labo, chercheurs, puissent débattre et faire partie de cette force de proposition. Alors, comme on était...
Alors, on va faire une petite pause, puisque tout le monde ne connaît pas ce monde de la recherche et tout. Est-ce qu'on peut qualifier un petit peu ce que sont... on parlait d'ingénieurs de recherche, on parlait des post-docs et tout. C'est quoi toutes ces étapes ou tous ces statuts différents?
On peut voir, déjà, il y a ceux qui font partie de futurs chercheurs, ceux qui sont formés à la recherche, donc les étudiants de DEA et les doctorants. Les doctorants obtiennent une thèse, deviennent docteurs. Certains rentrent directement dans l'appareil de recherche par concours, soit deviennent maîtres de conférences, donc font partie des métiers des enseignants-chercheurs de l'université. Soit sont intégrés comme chercheurs. Alors, il y a différents organismes de recherche. Il y a le CNRS, l'INSERM, il y en a d'autres. On en a l'INRA. Et donc, ça, ce sont les chercheurs. Et puis, il y a toute la catégorie des ingénieurs, techniciens et administratifs. C'est la catégorie des ITA. Alors, quand ça fait partie de l'université, on utilise un autre sigle, les IATOS. Donc ça, Monique, je pourrai en parler parce que ça a été une catégorie pas obligatoirement faciles à représenter, même s'ils étaient extrêmement mobilisés au moment des manifestations. Après, leur laisser une véritable place au sein des États généraux, ça n'a pas toujours été facile, tout simplement parce qu'il y a des problèmes aussi de hiérarchie professionnelle. Et pour un technicien, prendre la parole dans une séance où il y a également son directeur de laboratoire, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà les différentes catégories de personnel. Et après, comment ça s'est organisé? Comme on est avec des chercheurs, notamment en sciences dures, ils ont pensé un métasystème d'organisation des États généraux. Et dès mars, dans les réunions, c'était vraiment très intéressant à voir. Donc se créait l'idée qu'il fallait des comités locaux d'organisation des États généraux. Donc, se créent des CLOEG, comité local d'organisation des États généraux. Donc, par exemple, nous trois, nous faisons partie du CLOEG Paris Centre. C'est créé environ une quinzaine de CLOEG. Certains ont, comme Paris Centre, un périmètre géographique qui n'est même pas une partie d'une ville. Ailleurs, c'est un département ou une région. Et dans ces CLOEG visaient à organiser les débats. Donc, pour organiser les débats, on se disait on ne peut pas réfléchir tous ensemble sur tous les sujets. Donc, divisons, répartissons-nous le travail. Donc, il y a eu 4 thèmes qui ont vraiment été approfondis. Premièrement, le thème recherche et société, pour réfléchir sur quelle est la place de la recherche dans la société, quel lien faire notamment avec les citoyens, avec les associations, quelle place pour la diffusion des savoirs et pas simplement la production des connaissances. Il y a eu un autre atelier centré plus sur le thème du financement et de l'organisation même du système de recherche. Quel lien entre l'université et les laboratoires, par exemple? Et sera une des questions. Quelle place pour les financements par projet par rapport au financement récurrent annuel d'un laboratoire? Voilà, c'est ce genre de grandes questions qui ont été débattues. Un atelier centré sur acteurs et statuts. Là, bien sûr, on voulait réfléchir sur les moyens pour diminuer la précarité, améliorer les perspectives d'embauche et de carrière de tous les personnels, notamment des doctorants et des ITA. Et dernier thème, qui était un thème transversal, mais qui était sorti pour vraiment lui donner un peu de force, qui était le thème évaluation. Comment évaluer les structures, les personnels et les projets. Voilà. Et donc, après, c'est vraiment un métasystème dans le sens où chaque institut qui s'était déclaré institut en lutte devait normalement participer et produire des propositions sur ces 4 thèmes. Donc, les porte-paroles des instituts devaient venir aux réunions interlocales, par exemple, réunion interlocale Paris-Centre, ce qui permettait, dans mon cas, membre et porte-parole de l'IRESCO, représentant des sociologues, de venir discuter avec des représentants de Cochin, Pasteur, Necker, Paris 12, pour dire, vous en êtes où, vous, de vos débats? Quelles sont vos propositions? Et essayons de construire un texte ensemble. Quelles sont nos différences disciplinaires, différences statutaires? Pour arriver à la fin en juin, donc mars-juin était la première étape. On passait de textes locaux aux textes régionaux. Donc en juin, nous avons fini par rédiger, ce qui n'a pas été sans mal,
non,
une synthèse des états généraux locaux. Sont remontés des textes d'environ 15 régions qui ont ensuite sont repartis et débattus au niveau local. On reviendra si vous voulez parce que ça commence à être compliqué. Et ensuite, après, pendant l'été, une trentaine de rédacteurs ont été chargés de faire la synthèse nationale des 15 synthèses régionales, ce qui est reparti avec un système d'ascenseur tout en bas, redébattu au niveau
à la base,
local, régional, avec des amendements qui montaient du local au régional au national et qui redescendaient. Voilà, pendant 3 mois, de septembre à fin octobre. Et au départ, on aurait pu penser qu'on allait s'étriper, être divisé et arriver à 45 thèses différents avec « Moi, je suis la voix dissidente du texte alternatif numéro 35 ». Eh bien, le texte la synthèse nationale, il n'y a qu'un texte. Et même dans les annexes, progressivement, toutes les voies alternatives ont été diminuées. Donc nous sommes arrivés à la fin à faire un seul texte et des propositions sur lesquelles nous nous rassemblions. Ça a été un choix. Ça diminue peut-être la force du texte. Ben, on peut donner chacun notre avis par rapport à ce système-là. Mais l'idée, c'était vraiment, on est dans un contexte pas extrêmement facile, un gouvernement très très dur. Si nous sommes divisés, nous allons perdre.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistie.
Cette violence faite à la recherche et la dénégation simultanée de cette violence ont constitué un cocktail explosif qui a eu les conséquences que l'on sait.
Alors voilà, des ascenseurs, des comités locaux, des comités régionaux, d'autres ascenseurs, des synthèses locales, des synthèses régionales, des synthèses nationales, et au final, un seul texte. On est toujours donc avec Monique Rogard, Sophie Pochic et Santiago Pita qui nous parlent du mouvement qu'il y a eu autour de Sauvons la Recherche et des états généraux de la recherche. Alors, au final, un seul texte, et on va essayer de venir précisément sur, grosso modo, qu'est-ce qui a réussi à unir et à fédérer ceux qui ont pris part à ces états généraux de la recherche, puisque on avait vu clairement la manière dont vous posiez le problème de la survie de la recherche entre guillemets, mais quel type de réponses sont apportées par les chercheurs eux-mêmes après tout ce travail, Santiago.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas mal participé à l'atelier qui s'appelait Recherche et Société, c'est-à-dire examiner quels sont les liens et comment on doit évoluer les liens entre la recherche et la société. Et dans le texte final, nous commençons par faire un rappel des missions de la recherche scientifique. Et pourquoi c'est important de faire un rappel ? Parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, on s'est aperçu que la recherche, la mission première de la recherche, qui est celle de l'élaboration des connaissances, n'était plus ressentie, en tout cas par les gouvernements, comme telle. Ils avaient tendance à privilégier ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser la recherche pour le développement économique, c'est-à-dire la recherche publique pour aider les entreprises finalement à se développer. Donc on a commencé par rappeler quelles étaient les missions de la recherche scientifique, et dans la loi de 1982, il y en avait quatre qu'on reprend complètement, à savoir tout d'abord l'élaboration des connaissances, Ensuite, la diffusion de la connaissance, c'est-à-dire participer au développement de la culture scientifique dans la société. Troisième mission, la formation par la recherche et à la recherche. Et quatrième mission, qu'on reconnaît, la valorisation. On a ajouté à ces quatre missions une cinquième qui n'était pas dans la loi de 1982, qui est celle de l'expertise publique et indépendante, parce qu'il y a aussi là un problème. L'indépendance de l'expertise est un point fondamental qui n'est pas traité à ce jour. Donc ça, c'était le premier point sur lequel nous avons travaillé. C'était la première de nos conclusions, c'était rappeler quelles étaient ses missions et surtout la plus importante, l'élaboration des connaissances. Nous avons ensuite insisté sur le fait que la connaissance scientifique était un bien public. Et ça, c'est un point également très important qui est lié à d'autres points comme par exemple la question de la propriété intellectuelle, la question des brevets, la question des droits d'auteur. Et nous avons senti qu'il y avait un problème là-dessus, que nous ne sommes pas complètement capables de traiter et nous demandons l'organisation d'assises européennes sur cette question-là. Mais quand même, nous avons rappelé de façon unanime que la connaissance scientifique doit être considérée comme un bien public mondial. Ensuite, nous avons parlé de structures. Pour développer, améliorer les rapports entre la recherche et la société, il faut des structures. La première d'entre elles doit être un Haut Conseil de la science qui sera une instance, une sorte de parlement de la science où seront représentés des scientifiques et des membres de la société civile. Nous avons également demandé qu'il y ait une mission interministérielle science et société qui est pour objectif d'essayer de voir au niveau gouvernemental qu'est-ce qui peut être fait pour développer les liens entre recherche et société. C'est-à-dire, finalement, on va attaquer ce problème sous deux angles, l'angle des chercheurs et l'angle gouvernemental. Et puis ensuite, nous avons dit qu'il faut que les scientifiques soient davantage impliqués dans le développement de la culture scientifique. Et pour cela, il faut reconnaître cette mission et les reconnaître dans les statuts, mais il faut la reconnaître dans l'évaluation du travail des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, bien que officiellement ce soit reconnu, dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est un petit peu les points qu'on peut ressortir du chapitre 1, il y en a trois, du chapitre recherche et société, et du texte final.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on poursuit sur les autres points des états généraux? On reviendra après sur qui s'y colle, involontaire. Sophie.
Donc, ben, sur le chapitre qui portait sur comment organiser et financer la recherche, il y a eu beaucoup de débats autour de différentes questions, notamment est-ce qu'il faut créer une agence nationale de la recherche? Tout simplement parce que pour l'instant, pour réaliser une recherche, les crédits de base, c'est-à-dire les crédits de laboratoire, ne suffisent pas. Et les chercheurs courent après les différents appels d'offres de ministères différents, ou courent après des contrats de recherche avec des fondations ou des entreprises. Donc l'idée, c'était, peut-on regrouper ces différents crédits ministériels à travers un guichet unique pour notamment redonner un peu de souplesse aux équipes, aux thématiques émergentes, aux équipes nouvelles. Donc il y a eu tout un débat sur comment diminuer finalement cette rigidité que certains déploraient. Il y a eu beaucoup de débats sur ce thème-là, parce que le gouvernement avait déjà en tête, lui aussi, l'idée d'une agence de moyens, parce qu'une agence de moyens, ça permet de piloter la recherche d'en haut, d'investir dans des secteurs considérés comme à la fois dont les retours sur investissement sont rapides et puis qui peuvent avoir des débouchés, des retombées économiques en termes d'emploi. Ça, un gouvernement de droite aime bien. Et puis ça pouvait avoir un gros effet pervers qui était de prendre de l'argent normalement distribué aux organismes de recherche dans un contexte de pénurie pour le mettre dans cette agence nationale de la recherche. Donc il y a eu beaucoup de divergences. Et finalement,
autour de cette idée d'un comité de financement des projets. Et l'idée qui est vraiment présentée de façon centrale, c'est que, alors c'est une espèce de compromis, mais j'espère qu'il tiendra, c'est qu'il faut à la fois développer des projets blancs pour que ceux qui ont une idée nouvelle, qui veulent monter des équipes nouvelles, puissent avoir des crédits, mais en même temps que le ratio entre les crédits de base et ces crédits par projet soit très encadré. Donc c'est l'idée qui a émergé progressivement qu'il fallait avoir un objectif d'environ 70% du financement des laboratoires soit sur ces crédits de base récurrents qui permettent, qui notamment comprennent les salaires et les contrats de travail stables, et 30% sur ces crédits de projet pour éviter aussi tout un risque de précarisation par un effet de financement par projet. Dans les réflexions autour d'amélioration de l'organisation de la recherche, il y a eu aussi tout un débat sur comment améliorer les liens entre laboratoires de recherche, entreprises, grandes écoles, universités, finalement, qui sont au niveau local des structures qui parfois collaborent ensemble, parfois non. Donc le gouvernement, là encore, avait déjà en tête l'idée de créer des pôles de compétitivité. Le directeur du CNRS, Larouturou, a utilisé, lui, le terme de pôle d'excellence. Donc on ne pouvait pas ne pas répondre par rapport à ces différents projets. Donc le texte propose le terme de pôle de recherche dans pôle régionaux, non ?
Pôle régionaux
d'enseignement et de recherche. Notamment pour éviter, il y a des créations de nombreux cursus universitaires où il n'y a pas de lien avec la recherche, notamment en province, et pour essayer d'améliorer au niveau local la coordination entre grandes écoles, universités, laboratoires de recherche et éventuellement entreprises, mais avec beaucoup de réflexion sur il ne faut pas centrer les pôles locaux uniquement sur les débouchés en recherche technologique, mais aussi penser l'ancrage territorial par rapport à des thématiques et surtout que ce soit encadré au niveau national par ce haut comité de la science et qu'on ne réponde pas uniquement aux demandes des politiques au niveau local. Chacun veut avoir son pôle de compétitivité, on peut bien l'imaginer. Chacun veut avoir sa petite université et ça peut aller à l'encontre à la fois des intérêts des étudiants et des intérêts des chercheurs.
Voilà. Est-ce qu'il y avait un troisième point ? Non, on a fait un peu le tour. Alors peut-être revenir sur quelques
le troisième thème, ça c'est Monique qui va en parler, parce que c'est un des thèmes les plus importants pour nous, c'est le thème qui était sur acteur emploi.
On a appelé acteur et donc dans ce thème on a surtout parlé des différents statuts donc qui existent. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'en 82 les chercheurs du CNRS, de l'INSERM, étaient des contractuels. Et le résultat des assises de la recherche de 82, ça avait été d'obtenir pour les chercheurs des EPST, donc les établissements publics de recherche, scientifiques et techniques, donc de recherche, ça avait été d'obtenir le statut de fonctionnaire qui, jusqu'en 82, n'était que le statut des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des universitaires. Et c'est vrai qu'on sentait quand même qu'il y avait un certain nombre de gens dans le gouvernement qui n'étaient pas d'accord pour que ce statut de fonctionnaire se pérennise. La preuve, c'est que une des raisons qui a fait démarrer le conflit et la mobilisation, ça a été la diminution des crédits, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi les 550 postes statutaires qui étaient transformés en CDD. Donc ça, je pense qu'on a été assez rapidement convaincus que c'était une attaque directe contre le statut de fonctionnaire. Alors, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Tout le monde n'était pas d'accord. Bon, je vois sourire Sophie parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses discussions. Mais je crois qu'il y avait quand même un consensus pour dire que le statut de fonctionnaire était quand même attaqué avec quelque part, sans que ce soit dit, un chercheur fonctionnaire n'est pas un chercheur efficace. Il y avait quand même beaucoup de gens qui pensaient ça, en particulier dans le gouvernement, et j'ai peur qu'ils continuent à le penser. Donc on a eu beaucoup de discussions sur le statut, et aussi, puisque ça concernait beaucoup les étudiants, donc les doctorants, les gens qui n'ont pas encore de statut, et dont beaucoup travaillent dans des conditions très précaires, comment arriver à essayer d'élaborer un statut qui soit un statut de... Pendant que ces gens apprennent leur métier, ils ont quand même un statut d'apprentissage, on peut dire ça comme ça, mais en même temps, ils fournissent un travail très très important puisque une bonne partie des laboratoires vivent sur leur travail à la fois intellectuel mais aussi manuel en ce qui concerne les biologistes, mais c'est vrai aussi dans d'autres disciplines. Donc c'est quand même très important, et ce sont souvent des gens qui vivent sur une absence de statut dans des conditions de précarité très importantes. Donc il fallait trouver un cadre, essayer en tous les cas d'une part de faire discuter tous les acteurs et d'essayer d'élaborer un cadre dans lequel cette précarité serait au moins diminuer avec en plus un certain nombre de perspectives.
On n'est pas content du tout. On n'est pas content, mais alors pas content du tout.
Au bord de l'étoile rouge, il y a bien longtemps, je servais des canons aux potes à maman. Ça s'enivrait à la gloire du kir et des communards, rêvant du grand soir. Je me souviens de Vassiliev parti en 17 à Kiev donner vie au rêve. Pauvre Moudjik qui autrefois possédait pas même tes mains. Il ne te resta qu'un bras, au moins c'était le tien. Guérossignol, cerise et carmagnol, quel cœur et quelle lutte rechanteront ces luttes pour ressusciter les roues du bas de l'étoile rouge. C'est en 36 que Pablo s'en alla bâtir l'avenir et les châteaux sur le Guadalquivir. Il tomba sous la mitraille en braillant à plein poitrail, ay Carmel, ay. Puis Anna chez Benito a fait changer le tempo au Bella Ciao, ciao. L'hymne eut raison de l'idole, botte en l'air et née au sol. Mais toutes ces cabrioles rendirent Anna folle. Et mon index trempé dans le Jerez, sur le mur blanc traça nos passages en hommage à tous les rouges du bord de l'étoile rouge. Au bord de l'étoile rouge, reste plus que moi, une vieille que les canons d'eau rouge ne mettent plus en joie. Il y a toujours sur le mur écrit le cri des purs et durs, mais chacun s'en moque. Non, pas ça, c'est du passé, me disent des clients pressés, faut changer d'époque. Mais même si ce goût de goulag dans mon verre en cristal de Prague m'a tiré des pleurs, l'avenir est-il si radieux que l'on oublie celles et ceux qui l'ont rêvé meilleur. Anna, Pablo, Vassiliev, de là-haut, de tout,
cette violence faite à la recherche et la dénégation simultanée de cette violence ont constitué un cocktail explosif qui a eu les conséquences que l'on sait.
Voilà, on se retrouve avec avec un morceau de Cloeg dans le studio, puisque on est toujours avec les chercheurs trois chercheurs qui ont animé au moins sur Paris les états généraux de la recherche. Alors on voulait revenir, on a un petit peu décrit le cadre de ce à quoi était abouti ce à quoi avaient abouti ces états généraux de la recherche. De son côté, le gouvernement est plus dans une logique d'appeler à des fonds privés pour financer la recherche, avec une logique qui est de dire une recherche peut être rentable, doit être rentable, et donc la part de l'État, l'interrogation c'est quelle est la part de l'État dans le financement de la recherche. Alors Santiago, quelques éléments là-dessus, comment vous avez abordé cette question-là?
Bon, à ce propos-là, les choses sont relativement claires pour nous. La recherche publique, la connaissance scientifique pour nous est un bien public, ça je l'avais dit au début, et ça entraîne des conséquences. La première d'entre elles, c'est que l'État doit être garant du financement de la recherche scientifique. Donc ça pour nous c'est très clair. Maintenant, lorsqu'on écoute le gouvernement dit la recherche en France, publique plus privée, représente à peu près 2,2% du PIB. On se fixe comme objectif d'aller à 3% d'ici 2010. Bon, ça, c'est un point sur lequel tous les gouvernements se sont mis d'accord. Et à ce moment-là, le gouvernement dit, si on regarde la part de la recherche publique là-dedans, c'est à peu près 1%. 1%, ça veut dire qu'on est aussi bon que les États-Unis, que l'Allemagne, etc. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs au monde. C'est absolument faux. C'est absolument faux pour une raison très simple, c'est que lorsque les États-Unis ou l'Allemagne font ce calcul, ils ne mettent pas là-dedans tout ce qui concerne le nucléaire, l'aérospatial. La France le fait. Donc si on veut comparer des choses qui sont comparables, il faut enlever la part du nucléaire et de l'aérospatial. À ce moment-là, la recherche publique française se trouve à 0,6% du PIB, c'est-à-dire qu'elle est nettement en retard. Donc l'argument du gouvernement qui vise à dire que la recherche publique est suffisamment financée et que donc maintenant il est temps de financer la recherche privée, il ne colle pas. Et ça, on l'a dénoncé clairement. Maintenant, je ne sais pas si...
Il faut qu'ils fassent gaffe. Ils ont des intellos en phase 2 qui surveillent les chiffres. Alors, justement, sur donc le gouvernement dit ça, mais quid de ces fonds privés? Parce que...
L'agence de moyens que le gouvernement essayait de mettre en place avait pour objectif de piloter la recherche par le politique. Ça voulait dire qu'on allait développer des thématiques qui sont à la mode, des thématiques qui sont porteuses de bien-être au gouvernement d'un point de vue de l'électorat. et aussi des choses qui peuvent intéresser le privé. Nous, on considère qu'un politique ne peut pas piloter la recherche, tout simplement parce que le temps caractéristique du politique n'est pas le temps caractéristique de la recherche scientifique. Donc il faut que, sous la surveillance bien sûr du Parlement, des politiques, la communauté scientifique s'organise de façon à pouvoir elle-même piloter la recherche. Et c'est ce que nous proposons dans ce texte par la création d'un haut conseil de la science.
D'accord. Alors, je ne sais pas sur cette question-là, si on, parce que il y avait d'autres sujets sur lesquels on voulait revenir par rapport à des éléments que vous avez avancés, qui était cette question d'ouvrir la recherche à la société civile, ce qui peut soulever un certain nombre de problèmes, parce que la société civile, quand c'est ATTAC ou Aguiton ou ACT UP qu'on met autour d'une table et avec qui on se met à discuter de l'intérêt de la recherche, de l'avenir de la recherche, et c'est très intéressant. Je suis sûr qu'on peut produire des choses intéressantes. Si on met SOS Tout Petit et Christine Boutin avec des chercheurs en médecine autour d'une même table, d'un seul coup, la société civile devient nettement moins intéressante à mettre autour de la table. Alors comment cette question de l'intégration du rapport à la société civile se pose et comment on y répond en tout cas ?
Mais c'est vrai que cette question, elle a notamment été portée par des associations de malades, donc par ACT UP, et les liens qu'ont été créés entre les associations de malades et les chercheurs en biologie médicale. Elle a été également portée par les associations écolo et toutes leurs pratiques de veille et d'alerte par rapport à la recherche autour des OGM ou du nucléaire. Donc, à l'intérieur des États généraux sont venus interpeller les chercheurs ce type d'association et qui voulaient progressivement avoir une place plus importante, notamment dans les structures d'orientation et de définition des politiques en termes de priorité. Donc ça a été un débat qu'ils ont porté. Il y a eu notamment à Jussieu, même si finalement ils n'ont pas pu peut-être venir aussitôt, ils ont pris le train en marche, donc le forum social de la recherche qui a été organisé à Jussieu est arrivé un peu tard dans le travail d'écriture, mais on a écouté ces demandes. Et c'est vrai que souvent on leur répondait, mais attention, vous êtes des associations bien comme il faut. Mais si on ouvre, par exemple, le Haut Conseil de la science à des représentants de la société civile, on ne pourra pas faire une sélection en disant ACT UP et Greenpeace, oui, mais telle autre association, non. Donc la réponse...
Ça, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment autoritaire, moi, je pense que ça peut se faire.
Donc la réponse qui est faite dans le texte, c'est que dans le Haut Conseil de la science seront présents majoritairement des chercheurs. Donc, dans le cadre d'associations, des gens qui ont une formation à la recherche, premièrement. Et puis, surtout, la proposition est de l'ordre d'organisation de conférences citoyennes et également leur intégration lors des débats préparatoires au contrat plan État-région, par exemple, de les associer à tous les débats préparatoires. À la construction des politiques, mais peut-être pas de les associer au moment de la décision. Je pense que c'est la solution qui a été privilégiée pour essayer de mettre un peu des garde-fous.
C'est un point qui montre en fait un certain conservatisme quand même dans le milieu de la recherche, parce que quand on regarde ce qui a été dit au niveau local, aussi bien à Paris, je connais bien parce que j'y étais, mais aussi à Lyon, ce sont deux grands cloèques, donc deux endroits où le travail a été assez important. On se rend compte que cette demande de démocratisation de la recherche est très importante et elle est soutenue par les chercheurs eux-mêmes. Ce n'était pas le cas au début des États généraux, c'est quelque chose qui est venu à la suite des discussions, des échanges entre les gens, les associations, etc. Maintenant, lorsqu'il s'est agi de faire les nombreuses synthèses et de faire remonter ça au niveau national, on a été confronté à un blocage énorme et en fait on n'a pas réussi à se mettre totalement d'accord. Donc le texte, il énonce un certain nombre de principes, il dit oui, il faut des représentants de la société civile dans le Conseil de la science, oui, il faut des conférences citoyennes, oui, il faut des discussions avec le Parlement, etc. Mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les principes qui allaient guider le choix des représentants de la société civile. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus.
Alors, qui et pourquoi ?
Qui sera représenté ?
Non. Qui est réticent à mettre en place ces mesures ?
Ah bah, c'est parmi les chercheurs lambda, c'est la moitié d'entre eux. Donc c'est très difficile de... C'est pas forcément les gens de droite. Hein. Il y en a très peu d'ailleurs parmi nous. Non, je ne saurais pas dire. Nous, on avait proposé qu'on prenne comme critère le suivant. Il y a un certain nombre d'associations qui ont développé une expertise scientifique. Donc on s'est dit, on pourrait dire, voilà notre critère. Donc c'est le cas de Greenpeace, c'est le cas d'Attac pour ce qui est de l'économie, c'est le cas d'un certain nombre d'entre elles. Mais ce critère-là a été refusé par autant de personnes que ceux qui le soutenaient, donc on n'a pas pu le faire passer. Mais je ne peux pas caractériser les gens qui refusent. Je n'ai pas trouvé un critère qui permet de les caractériser. Je pense qu'il y a des gens simplement qui ne croient pas parce que la recherche scientifique ne se pilote pas plus par le politique que par l'associatif, tout simplement.
Alors, on est un petit peu dans le désordre, mais c'est vrai qu'on approche de la fin de l'émission. Moi, j'aurais bien tout de même aimé parler des liens qu'a pu avoir ce mouvement auquel vous avez pris part avec d'autres mouvements, puisque un des cœurs des choses qui vous ont fait réagir, c'était la question de la précarité. Et il existe en ce moment, hein, c'est un certain nombre de mouvements relativement actifs autour de ces questions de la précarité. On a vu le mouvement des intermittents qui était un peu concomitant au vôtre. Est-ce qu'il y a eu moyen de créer des passerelles ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion commune un peu plus large que... Je vois tout le monde qui fait non de la tête. Santiago, tu es volontaire ?
Bah écoute, on a essayé au début, on s'est dit, les intermittents se battent depuis un moment, ils ont gagné de l'expérience, ce serait pas mal, parce qu'ils ont commencé avant nous, hein. Ouais. Et ce serait pas mal de se rallier, d'essayer de faire des choses ensemble. Et en fait, il y a eu une réunion commune, je crois au mois de mars, quelque chose comme ça, mais la mayonnaise n'a pas pris. Peut-être parce que les intermittents étaient déjà bien avancés et qu'ils avaient peut-être peur qu'on récupère un peu le mouvement qu'ils avaient su créer. Je ne saurais pas dire, mais ça n'a pas pris. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ça. En ce qui concerne d'autres associations, il y a des gens qui ont participé au débat des États généraux au niveau très local, en particulier les gens d'ACT UP. Mais là aussi, on peut considérer qu'ils n'ont pas été assez présents. On peut dire la même chose pour les syndicats. Ils n'ont pas été assez présents, même s'il y a eu des représentants de ci, de là.
Mais une des raisons que je vois, c'est qu'on a été contraint de faire tout ça dans l'urgence.
C'est vrai.
Parce que normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus de temps. Et comme on nous a fait miroiter à l'horizon, oui. Il faut absolument que ça soit prêt pour que une loi puisse être préparée à l'automne. Donc on nous a dit, il faut absolument que vous alliez très vite. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où on a dit, mais on ne va pas pouvoir, ça ne va pas être possible. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi cette contrainte de temps qu'on nous a imposée.
Oui, ben précisément, où ça en est, avec le gouvernement, il y a eu donc ce fameux projet de loi qui a été annoncé au moment où, enfin, en cours du mouvement. Quels sont vos rapports avec les ministères ? Ça en est où ? Est-ce qu'il y a des liens qui font que... Il y a des mesures que vous avez proposées qui ont été prises en compte ou au contraire, il y a eu des rejets
Pour le vote du budget 2005, quelque part, on est arrivé tout juste un tout petit peu après, oui. Dans le sens où le vote du budget est passé le 4 novembre et le CIP remettait le texte de proposition au gouvernement le 9 novembre. Donc ça tombe bien dans le sens où le budget 2005 ne correspond pas du tout aux propositions qui étaient faites dans le texte, puisqu'il n'y a aucune création de postes de chercheurs, d'ingénieurs ou de techniciens. Il y a uniquement création de 150 postes de maîtres de conf, alors que nous, on en demandait 2200, pour vous donner un exemple d'écart. De la même manière, il propose un milliard en trompe-l'œil parce que c'est un rattrapage des crédits qui avaient été perdus en 2002 et 2003. Et puis, 350 millions qui sont destinés aux agences et les nouvelles fondations privées pour l'innovation qui ont été créées par Raffarin. Donc, pour 2005, quelque part, c'était trop tard. Alors, par rapport à la loi d'orientation et de programmation qui va être préparée, on a encore, je l'espère, de l'espoir. Donc, se met en place un comité de suivi. issus des états généraux.
Vous aimez bien ça quand même, les comités locaux, régionaux, les comités de suivi.
Des comités de suivi pour essayer quelque part d'obliger le gouvernement à tenir compte de nos propositions. Et là, quelque part, si les syndicats ont été associés aux états généraux, mais finalement on a eu surtout le soutien de la CGT et de la FSU, dont les syndiqués et syndicalistes se sont impliqués comme les chercheurs et techniciens de base. Mm-hmm. On n'a pas eu le soutien de tous les syndicats. Mm-hmm. Là, il va falloir qu'on travaille vraiment ensemble parce que finalement, eux, ils ont l'expérience de la confrontation et de la revendication tenace. Mm-hmm.
Oui, je peux ajouter un mot là-dessus. Ce comité de suivi, il a un sens parce que nous avons constitué un réseau. Un réseau, par exemple, notre liste email, elle fait 120 000, elle a 120 000 adresses. Donc, on est capable de réagir. Donc, on est capable de mettre la pression sur le gouvernement. Ceci dit, on ne se fait pas réellement d'illusions par rapport à ce gouvernement de droite. On espère, par contre, que ce qu'on a construit, qui est un travail sérieux, je le crois, pourra servir dans le futur. Donc, ça, c'est notre espoir. Mais on va quand même continuer à mettre la pression sur le gouvernement.
Alors voilà, on vous avait prévenu, le sujet était ardu, on arrive donc au terme de cette émission. Alors pas de livre à vendre, toujours pas de CD live du Cloeg, hein, mais il y a un livre. Alors il y a un livre, très vite Santiago.
Le livre qui contient l'ensemble du rapport avec tout un tas de textes supplémentaires qui fait à peu près 500 pages et des dessins humoristiques parce que pendant les états généraux il y avait un dessinateur qui fait des choses formidables. Eh bien il sort le 7 janvier pour l'anniversaire du début du lancement de la pétition sur internet. Et il sera en vente au prix de 23 €. Je ne saurais pas dire quelle est la maison d'édition qui a fait ça. La totalité de l'argent qui sera gagné là-dessus sera reversé à l'association Sauvons la Recherche, ce qui permettra de continuer le combat.
Et ben voilà, ben merci beaucoup. Finalement, vous aviez quelque chose à vendre, on est rassurés. on vous remercie. On espère que tous les chercheurs sont aussi bien de gauche que vous. Monique Regard, Sophie Pochic et Santiago Pita, merci beaucoup d'être venus. Ce soir, c'était l'équipe restreinte, quasiment le service minimum pour notre émission, puisque on était trois avec Guillaume et Jérémy. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, et puis on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne.